Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis enchanté de vous retrouver pour Culture Média au menu Média et Culture au sens large. Tous les médias et toutes les formes de culture. Tiens, aujourd'hui, on va s'intéresser à une web-série d'Arte, Merci de ne pas toucher, puis à La guerre des mondes, mais adaptée en manga. Oui, je sais, c'est pointu. Vous retrouverez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu, ce sera en deuxième heure. Peu après, Bertrand Chamerois pour son écran de veille, puis Eva Rock pour le zapping du lendemain. Et je n'oublie pas dans quelques instants le journal des médias d'Antoine Genton et les audiences avec Louise Bernard. L'infomédia du jour va se pencher sur le phénomène médiatique du moment, le réseau Twitch, à la base un réseau de gamers de plus en plus investi, par exemple par le journaliste Samuel Etienne qui a lancé sa chaîne, ou encore le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui lance une émission mensuelle depuis l'Elysée à partir de ce soir. On en parle avec Jean Massier, il est streamer politique, oui ça existe, et Benoît Berthelot, journaliste média au magazine Capital. Nos invités ensuite, Maya Loquet et Thomas Hill, ils présentent La Quotidienne sur France 5, et comme le salon de l'agriculture a été annulé cette année pour cause de Covid, je ne vous apprends rien. Toute la semaine prochaine, ils vont transformer leur plateau en salon de l'agriculture. Il y aura des animaux et ils attendent même, aucun rapport, la visite du ministre de l'Agriculture. Enfin, la chanteuse de jazz Mélodie Gardot, qui envoûte ses fans aux quatre coins du monde, elle vient nous parler de son dernier album Sunset in the Blue, très sensuel, après son duo avec Sting, qu'on entendra également. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Antoine Genton, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Antoine, au sommaire de votre journal des médias.
Un objectif rapidement atteint, la fin d'un bras de fer et ça fera du bien de la musique classique.
Mais d'abord, les audiences avec vous Louise, qu'ont regardé les Français hier soir?
Alors il y a une grosse surprise, c'est France 2 qui est première. Et pourquoi c'est une surprise? Parce que c'est un documentaire. C'était Nous Paysans, faute de salon de l'agriculture. France 2 proposait une soirée spéciale autour de l'agriculture. Et ça cartonne, c'est 5 millions de téléspectateurs, 21,1%
incroyable.
De part d'audience. Ouais. Ensuite, donc, ça a permis de battre l'éternel leader Crime Parfait sur France 3 qui se classe donc deuxième. 3 644 000 téléspectateurs, 14,5% de part d'audience. Au coude à coude vraiment avec TF1 et sa série américaine SWAT, 3 600 000 téléspectateurs, 15,3% de part d'audience. C'est une moyenne des deux épisodes parce que TF1 avait remis pour une fois deux inédits. Là, il perdait beaucoup de téléspectateurs entre le premier inédit et la rediffusion. Là, c'était deux inédits, mais troisième seulement.
Et hier, c'était le lancement de Pékin Express.
Voilà, un mot quand même sur le lancement qui est seulement quatrième hein, sur M6, 2 900 000 téléspectateurs. Mais c'est le meilleur lancement depuis 2014 pour Pékin Express en nombre de téléspectateurs.
Culture Média.
Et l'autre bonne nouvelle, c'est que Bertrand Chamerois va s'intéresser à Pékin Express tout à l'heure vers 10h02. Ne ratez pas ça. Antoine Genton, je me tourne vers vous pour le journal des médias. On a peut-être trouvé l'origine de la panne qui avait perturbé le journal de 13h de TF1, c'était la semaine dernière.
Oui, c'est le Canard Enchaîné qu'il raconte ce matin. Il s'agirait d'un informaticien, d'un prestataire extérieur qui aurait lancé la mise à jour des serveurs de TF1 peu après-midi,
non.
C'était jeudi dernier.
Pardon.
Normalement, cette longue opération s'effectue la nuit et à midi 47, 13 minutes donc avant le début du journal, tout tombe en panne. Le serveur de secours n'a pas fonctionné. Il était branché, figurez-vous, au serveur principal. C'est en tout cas encore une fois ce qu'affirme le Canard ce matin.
Pardon de sourire, mais ça nous est arrivé à tous. À la une également, un défi relevé.
Oui, relevé par McFly et Carlito. Leur dernière vidéo a atteint, ça y est, les 10 millions de vues. C'était tard, hier soir, 2 jours et demi seulement après avoir été mise en ligne. Vous en avez parlé d'ailleurs, hein, ici même avant-hier. Une chanson dans cette vidéo, une chanson dans laquelle il rappelle l'utilité et la nécessité des gestes barrières.
Je me souviens de ce monde où les seules barrières étaient celles dans les champs de vaches
ou de brebis.
Si l'on veut retrouver ces sensations d'hier, il faut appliquer les gestes barrières.
Ça y est, vous l'avez dans la tête.
Ouais, merci, j'avais réussi à m'en débarrasser.
Ou de brebis.
Porter un masque, se laver les mains régulièrement, respecter une distance d'au moins 2 mètres quand vous êtes avec d'autres personnes. Rappelez donc les gestes barrières à leurs jeunes abonnés. C'est Emmanuel Macron qui leur avait lancé ce défi avec un objectif fixé par le président de la République. 10 millions de vues donc, objectif atteint. Incroyable, monstrueux, insane, écrit Carlito sur Twitter. Carlito et McFly qui iront donc tourner à l'Elysée. C'est ce que leur avait promis le chef de l'État qui devrait participer donc à leur concours d'anecdotes anecdote. Un jeu, je vous le rappelle, hein, où les participants doivent écouter une anecdote et deviner si elle est vraie ou fausse. S'ils se trompent, ils ont un gage. Aucune date n'est prévue pour le moment. On vous tiendra évidemment au courant.
Et est-ce que le président de la République peut lui-même avoir un gage ?
Ah bien sûr,
oui.
C'est tout l'intérêt du jeu. Oh là là. Parce que le « il » au pluriel, c'était pas seulement McFly et Carlito. Et c'était Emmanuel Macron compris. Ouais. On a hâte. Plus sérieusement, fin du bras de fer entre Facebook et le gouvernement en Australie.
Facebook va donner accès au contenu qu'il avait bloqué la semaine dernière, des articles, des vidéos que les utilisateurs australiens ne pouvaient plus lire ou regarder. La décision avait choqué, on en avait parlé. Le géant du web a trouvé un accord avec les autorités australiennes hier. Un compromis sur la loi qu'il conteste, une loi qui vise à le forcer, lui et les autres GAFAM, à rémunérer les médias dont il publie les contenus. Hein, ce sont les droits voisins ici en Europe. Ces contraintes pourraient être levées si ces grandes entreprises du net participent au financement des médias australiens. Autre point important, ces entreprises auront 5 mois et non plus 3 mois pour trouver un accord avec les journaux, les radios, les télés et les sites du pays.
On part aux États-Unis. Google autorise à nouveau les publicités politiques aux États-Unis. Donc.
Elles reviennent aujourd'hui sur les sites du groupe, 1 mois et demi après leur interdiction. C'était juste après les émeutes du Capitole à Washington. Cela dit, Google précise qu'il interdit formellement la diffusion d'informations clairement fausses. Des informations qui, précise-t-il, pourraient saper la confiance dans les élections ou le processus démocratique. Google qui reste donc très vigilant.
Le focus programme du jour, ce sont les victoires de la musique classique ce soir.
Le Boléro de Ravel pour ouvrir la cérémonie, 28e édition ce soir en direct de l'Auditorium de Lyon sur France 3, sans public, mais avec un nouveau duo d'animateurs, Stéphane Bern. Encore ah oui. Lui, on l'embrasse Stéphane, il a récemment officié pour les Victoires de la Musique et pour la sélection de l'Eurovision. Et à ses côtés, une jeune violoniste, concertiste, Marina Chiche, pour qui il est très important que la cérémonie ait lieu, même devant une salle vide.
Les concerts sont arrêtés et c'est très douloureux et peut-être même un peu plus que douloureux. C'est un peu tragique pour nous artistes d'être empêchés et d'être privés du lien avec le public. Alors justement, dans ce contexte, d'avoir un moment de célébration, de quand même se retrouver autour de ce qu'on aime et de montrer qu'on continue à vibrer pour et que voilà, on attend impatiemment des jours meilleurs. Voilà, ça prend une dimension, je pense, symbolique forte.
Et cette dimension symbolique, elle passe aussi par la place importante accordée à la jeunesse, à la nouvelle génération. Ce soir, cela se traduit dans un prix, la Victoire d'honneur. D'habitude, elle est attribuée à un artiste international. Et bien cette année, elle est dédiée aux musiciens et à l'avenir. Un ou une étudiante du Conservatoire de Lyon la recevra donc en guise de symbole. Place importante aussi donnée au direct, au live. Ce soir, les nommés joueront, des invités également, tous accompagnés par l'Orchestre National de Lyon. Une soirée de retrouvailles pour les musiciens, essentielle pour eux, une bouffée d'air frais, en somme. Marina Chiche.
Je pense que c'est une forme de reconnaissance, évidemment. Et puis, ce moment où on se réunit collectivement, donc évidemment, c'est un moment d'exposition dans le secteur entre nous, et puis aussi une mise en contact avec un public plus large. Donc c'est vraiment une caisse de résonance qui est bienvenue pour se faire connaître quand on est artiste et puis aussi pour partager cette musique que j'aime tant.
Une caisse de résonance qui se réduit, il faut le dire, hein, Louise, chaque année un peu plus.
Oui, l'audience baisse à chaque édition. L'année dernière, il y avait tout juste 1 million de téléspectateurs et la part était seulement de 5,8% en prime sur France 3. C'est vraiment très peu.
Et on souhaite à ces musiciens de faire remonter les évidemment. Audiences ce soir, évidemment. Parmi eux, vous l'entendez, le pianiste Alexandre Tarot, un impromptu de Schubert. Les 28e victoires de la musique classique. C'est à 21h ce soir sur France 3.
Et alors, autre salle, autre ambiance, des combats viennent enrichir le catalogue des programmes de la chaîne L'Équipe.
Ouais, sans transition. Hein, ouais. Des combats de MMA, les arts martiaux mixtes en français, ceux qui opposent deux combattants dans une cage octogonale. L'Équipe va diffuser quelques-uns des meilleurs affrontements de l'UFC, hein, la principale ligue américaine, des combats devenus... Pour les passionnés du genre des classiques, ce sera le samedi soir, tard à 22h30, à partir du 6 mars prochain.
Merci beaucoup. Toutes ces infos, on peut les retrouver. Vous pouvez les retrouver avec d'autres dans la newsletter média d'Europe 1, c'est gratuit. Inscription sur europe1.fr. Merci Antoine Janton. Merci Louise Bernard. On vous retrouve demain,
à demain
pour
Philippe.
Un nouveau
à
journal des médias.
Allez, sciences.
Ah oui, exactement. Vous allez parler d'une série sur Arte. À suivre dans notre info média du jour. Focus sur le véritable phénomène de la plateforme Twitch qui s'étend aujourd'hui jusqu'à l'Elysée en accueillant la chaîne du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Ça commence ce soir. On en parle avec le journaliste média Benoît Berthelot et le streamer Jean Massier, créateur de la chaîne politique Acropolis.
L'émission référence sur les médias, c'est Europe 1 Culture. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vondel.
Rarement, on a autant parlé d'elle depuis sa création. Twitch est particulièrement présent dans l'actualité cette semaine. La plateforme accueille un nouvel utilisateur ce soir, pas n'importe lequel, un nouveau streamer, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Il lance une nouvelle émission en direct de l'Elysée, son titre, hashtag ou mot dièse, sans filtre. Et vendredi, ce sera au tour d'un animateur de se lancer sur Twitch, Thierry Beccaro, un journaliste a déjà franchi le pas récemment, Samuel Etienne, qui était notre invité avant-hier. Il présente une revue de presse quotidienne depuis quelques semaines. Il a déjà plus de 200 000 followers. Twitch, donc, qui fête ses 10 ans cette année, est de plus en plus attractive, mais elle reste encore méconnue pour beaucoup. Comment fonctionne-t-elle? Que peut-on y trouver? Élément de réponse avec nos deux invités. Bonjour Benoît Berthelot.
Bonjour.
Vous êtes journaliste high-tech au magazine Capital et vous travaillez sur Twitch et sur son propriétaire Amazon. Bonjour Jean Massier.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes streamer, diffuseur sur Twitch. Autrement dit, vous avez une chaîne, elle s'appelle Acropolis, que vous avez créée en 2015 et vous analysez entre autres l'actualité politique dont vous parlez également sur Public Sénat. Et aussi, vous jouez sur Twitch car vous êtes un gamer et parfois, on va l'entendre, vous mélangez les deux. Mais d'abord, Benoît Berthelot, en quelques mots, c'est quoi Twitch ?
C'est une plateforme en ligne qui a été fondée en 2011 et qui est vraiment axée sur la diffusion en direct de jeux vidéo au départ. Donc c'est des gamers, des joueurs de jeux vidéo qui diffusent leur partie en direct.
C'est-à-dire qu'on voit les gens, j'explique pour qui n'a jamais vu, on voit les gens en train de jouer, on voit à la fois ce qu'ils voient sur l'écran voilà. Et lui-même avec un casque qui parle et qui s'énerve parfois
voilà,
ou pas.
Il se filme à la webcam, il commente sa partie un peu comme un commentateur sportif en fait ouais. De jeux vidéo. Et ses abonnés chatent en direct, donc peuvent interagir avec le joueur en écrivant sur le côté leur commentaire.
Par écrit.
Ils peuvent l'interpeller, il leur répond, donc c'est extrêmement interactif, extrêmement spontané. C'est une plateforme qui a connu un essor, elle a été en effet rachetée par Amazon en 2014. Et aujourd'hui, on voit une diversification des thèmes, même si ça reste axé sur un très jeune public et sur le jeu vidéo. Aujourd'hui, on voit de la politique, de la cuisine, des débats, un peu comme la radio libre de l'époque. Mmh. Et surtout, chacun peut créer sa chaîne. Il y a beaucoup de petites chaînes de diffuseurs qui ont quelques dizaines d'abonnés, mais qui passent leur temps comme ça. Avant, c'était YouTube. Et maintenant, effectivement, Twitch est en plein essor.
Si mes chiffres sont à jour, 26,5 millions de visiteurs quotidiens. Jean Massier, concrètement, comment ça se passe et comment ça se passe pour vous sur Twitch?
Bah écoutez, c'est assez simple. J'anime des émissions comme si c'était des conversations. Pour reprendre l'image du jeu vidéo, c'est exactement, on s'en souvient tous, on a tous vécu une après-midi avec des copains devant la télé, sur le canapé. Il y en a un qui joue au jeu vidéo et les autres qui sont autour de lui, qui regardent le jeu.
Et qui lui disent qu'il est nul.
Et ben moi, je fais exactement pareil, ouais. Sauf que il se trouve que je joue pas au jeu vidéo, je regarde la politique mm-hmm. et que j'en discute avec mes amis. Bon, il se trouve que quand on a des grandes chaînes, on a plusieurs milliers d'amis, il faut des grands canapés. Mais vous voyez l'idée. C'est cet aspect très convivial et conversationnel, c'est ça qui est au cœur de la plateforme Twitch.
Quand on a une chaîne Twitch comme c'est votre cas, Jean Massier, est-ce qu'on peut parler de plusieurs sujets ou est-ce qu'au contraire il faut être monothématique pour ne pas dérouter ses abonnés ?
Non, on peut parler de plusieurs sujets. Il faut au contraire accepter d'emmener son public vers les sujets qui nous intéressent. Il y a aucune obligation du côté de la plateforme. Il y a une culture et une manière de faire les choses. Et la manière de faire les choses, c'est celle de la diversité, de la sincérité. Donc voilà, certaines personnes sur la plateforme, notamment des joueurs de jeux vidéo, vont jouer qu'à un seul jeu ou mm-hmm. qu'à un seul type de jeu parce que c'est le jeu qu'ils aiment. Mais d'autres personnes, au contraire, vont plutôt picorer, aller chercher dans plein de trucs différents. Et c'est un peu mon cas d'ailleurs.
Oui, mais vous faites pas quand vous faites la question les questions à l'Assemblée nationale ou au Sénat, vous vous mettez pas à bifurquer sur le dernier Zelda. Vous restez focus.
Non. Je parle d'actualité politique. Mais voilà. Vous remarquerez aussi que l'actualité politique, elle est diverse. On parle de plein de sujets quand on parle d'actualité politique.
Exactement.
C'est exactement comme une antenne de radio ou comme une chaîne de télévision. Mmh. On va aborder des sujets très différents les uns des autres et c'est l'actualité qui va dicter le tempo et la diversité des sujets. Donc moi, j'ai cette chance, c'est que la politique change tous les jours.
Ouais. D'autres sujets qu'on peut trouver, Benoît Berthelot, sur Twitch, il y a la politique, il y a les jeux vidéo, il y a quoi d'autre ?
Ah, il y a des gens qui vont faire de la cuisine en direct, qui vont faire du maquillage. Enfin, toutes les passions qui existent sont a priori sur Twitch. Je parlais au patron européen de la plateforme qui me disait qu'il faut imaginer 6 millions de chaînes de télé différentes, thématiques, avec leur audience. Et effectivement, c'est complètement libre. Mais ce qui marche le mieux, c'est vraiment la discussion en direct. Le débat, vraiment comme ça rappelle les libres antennes radio de l'époque. Quoi.
Et l'interactivité. Pour qu'on se fasse une idée, je vais vous faire écouter quelques secondes du début d'un des derniers streams de Jean Massier. C'était en fin de semaine dernière.
Bonsoir tout le monde. J'espère que tu vas bien. J'espère que ça va pour tout le monde. On va faire une soirée gaming, dis donc. Ça fait longtemps. C'est le copain Hugo Bernalicis qui m'a proposé ça. Le copain Hugo, par ailleurs député de la Nation, on va jouer à LOL en toute décontractivité. Sauf que, rendez-vous à 21h30, donc on commencera à 21h30. Sauf que d'ici là, il faut que je fasse du réglage de stream.
Alors LOL, je précise pour les non-initiés, c'est League of Legends. Jean Massier, vous parlez avec le député que vous appelez copain, c'est un député de la France Insoumise. Est-ce que ce mélange des genres pose problème ?
Non, il pose pas de problème. Il se trouve que Hugo Bernalicis fait partie des très rares députés qui a lui-même une chaîne Twitch sur laquelle il joue aux jeux vidéo. Il se trouve que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on a sympathisé. Il n'y a pas de sympathie politique, il y a une sympathie humaine du simple fait que lui est un homme politique, je travaille sur la politique et il se trouve qu'on est tous les deux passionnés de jeux vidéo. Donc ça nous arrive de temps en temps de jouer tous les deux. Pour le coup, la notion de proximité, il n'y a pas de mélange des genres. En tout cas, dans la tête du public, c'est assez clair.
Ouais, ça se passe aussi dans d'autres médias, pas seulement sur Twitch. Alors Jean Massier, justement sur Twitch, on ne parle pas de politique comme on en parle à la télé, on vient de l'entendre. Quels sont les codes de Twitch ?
Les codes de Twitch, ils sont éditoriaux. Ils sont pas tant techniques qu'éditoriaux. C'est une manière de s'adresser à son public et c'est une manière de considérer son public. Pour le faire très simple, quand on est sur Twitch, il ne faut surtout pas considérer que l'on est sur un piédestal ou sur une estrade et que l'on déclame un discours à un public qui serait un auditoire, qui serait silencieux et qui écouterait. Se contenterait d'applaudir.
Je vous interromps. Si Léa Salamé était là, où on lui posait la question sur l'émission politique, elle dirait la même chose. On se met pas sur un piédestal, mais il y a des codes. Par exemple, on se tutoie. On peut utiliser des gros mots.
Non, mais
il y a des jurons. Des fois, on entend merde.
En fait, c'est la convivialité, le code premier.
Ouais.
Oui. C'est la convivialité, le code premier. C'est encore une fois, j'en reviens à ce caractère très amical, très chaleureux. On est dans un salon de thé. On se tutoie, on est en t-shirt, on rigole, on rigole généreusement, sincèrement, avec humilité. Ouais. C'est ça que je veux dire quand je dis on ne se met pas sur un piédestal. C'est-à-dire que on ne se considère pas en représentation de soi-même. Non, on est soi-même. Et c'est ça le code premier de Twitch, c'est cette simplicité en fait. C'est pas très simple à faire pour tout le monde. Évidemment, ouais. On a tous tendance un peu à se mettre en scène. Mais sur Twitch, ce qui est le plus valorisé par le public, c'est la capacité à être soi-même, simple, humble, voilà.
86 000 abonnés sur votre chaîne Acropolis Jean Massier, qu'est-ce que ça change de parler politique sur Twitch plutôt que par exemple quand vous êtes sur Public Sénat ?
Ça permet. Alors, il se trouve que Public Sénat diffuse un de mes streams sur Twitch, donc c'est très particulier. C'est la seule chaîne
Exactement.
De télévision à faire ça. Mais il se trouve que ce que ça change, c'est que précisément, je parle de politique, mais j'échange au sujet de la politique. Je demande au public ce qu'il en pense.
Ouais.
Je me contente pas simplement de dire au public, ça y est, le gouvernement a décidé un couvre-feu. Je leur demande, et vous alors, racontez-moi comment ça se passe le couvre-feu chez vous. Expliquez-moi. Et vous d'ailleurs, les étudiants en ce moment, comment ça va? Est-ce que c'est pas trop galère les examens? On en parle. On fait de la politique, non pas un sujet simplement de reportage. Et de diffusion, on fait de la politique un sujet de conversation, tout simplement. Et c'est ça que ça change, c'est ça que Twitch rend possible à la différence d'autres plateformes qui sont bien plus des plateformes de diffusion. C'est que comme Twitch est une plateforme d'interaction, ça change cette posture éditoriale, encore une fois.
On l'a dit, Twitch a été acheté par Amazon. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé encore, c'est le modèle économique de Twitch et pour le groupe et pour les Twitchers, justement, je ne sais pas comment on dit, pour ceux qui s'y expriment. On en parle juste après une courte pause avec Jean Massier et Benoît Berthelot. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. 9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Nous parlons de ce nouveau média en ligne, ou plutôt, il n'est pas nouveau, il existe depuis 2011, mais c'est son irruption qui est nouvelle dans l'actualité, notamment avec la chaîne qui sera lancée ce soir par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Hashtag sans filtre, c'est le nom de la chaîne, on peut parier qu'il y aura quand même des filtres. Jean Massier, vous êtes avec nous, vous avez une chaîne qui s'appelle Acropolis. Benoît Berthelot avec nous, journaliste high-tech, tech au sein du magazine Capital. Jean Massier, votre chaîne Acropolis, si on est bien informé, va être débaptisée. Elle va bientôt s'appeler Jean Massier. Pour quelle raison ? Pourquoi ce changement ?
C'est un changement qui intervient après plusieurs années où la chaîne Acropolis était un collectif où j'avais recruté et formé d'autres streamers que moi pour parler d'autres sujets de politique et on a décidé de changer un petit peu le modèle puisqu'il se trouve que sur Twitch ce qui fonctionne le mieux si je puis dire c'est l'incarnation en fait les personnes ne suivent pas des marques les personnes suivent des personnes des influenceurs des copains c'est cette relation directe entre le public et le streamer qui crée l'alchimie et qui rend possible d'avoir plusieurs dizaines de milliers de followers. Donc à l'usage, je me suis rendu compte que je préférais assumer le fait que cette chaîne était la mienne, que j'étais son seul visage. Et donc voilà, donc j'incarne, je décide d'incarner la chaîne et je laisse tomber la marque pour assumer mon identité. Voilà.
Ouais. En l'occurrence, par exemple, Samuel Etienne a baptisé sa chaîne La Matinée est Tienne. Donc on entend quand même un petit peu son patronyme.
Non, c'est pas sa chaîne.
Ça, c'est l'émission.
Non, ça c'est le nom de son émission. Pardon. Sa chaîne s'appelle Samuel Etienne.
Ah, vous avez raison. Alors merci, autant pour moi, précision importante. Benoît Berthelot, justement, les streamers qui passent du temps, beaucoup de temps parfois sur leur live, est-ce qu'ils sont rémunérés pour cela ?
Ils peuvent assez vite être rémunérés. Hein. Il suffit d'avoir très très peu d'abonnés pour devenir un partenaire, c'est-à-dire pouvoir engranger des revenus avec Twitch. Ça marche de différentes façons. Il y a de la publicité qui est diffusée au milieu des streams et les diffuseurs peuvent en toucher une toute petite partie, mais la principale partie est touchée par Amazon, le propriétaire. Mmh. Et ensuite, il y a tout un système de pourboire avec une monnaie virtuelle créée par Twitch qui permet aux abonnés de verser des pourboires dans cette monnaie virtuelle aux streamers, mais qui va en toucher une partie. Là aussi, Amazon prend sa commission. Et après, il y a des abonnements. Tout simplement, vous pouvez vous abonner en payant à une chaîne, environ 5€ par mois. Ouais. Et là-dessus, le diffuseur touche la moitié. Hein, c'est des commissions très secrètes qu'Amazon ne veut pas donner, mais c'est 50% qui va à Amazon, 50% au diffuseur. Et être abonné, ça donne droit à utiliser des emojis particuliers, enfin faire partie de la communauté. Il y a beaucoup de gens qui sont très attachés à des diffuseurs, qui sont fans d'un joueur de jeux vidéo, qui vont pouvoir, pour lui faire plaisir, lui donner cette rémunération. Pour les débutants, ça peut donner assez vite des 300-400€ par mois. Hein, ouais. Des gens que j'ai interrogés pour mon article. Une sexologue, par exemple, qui est basée à Los Angeles, qui n'a pas pu faire de consultation pendant le premier confinement. Elle s'est mise sur Twitch et elle a vite fait un revenu d'appoint comme ça. Elle parle de sexualité avec les Français sur sa chaîne. Et après, ça lui permet de trouver des clients derrière. Enfin, il y a toutes sortes de mécanismes.
Vous dites, juste pour donner un ordre de grandeur, vous dites 200-300€ par mois. Donc, on peut dire 200-300$ par mois. Elle a combien de followers pour arriver à ce nombre, à ce chiffre ?
Elle, je crois qu'elle en a environ 12 000. Donc, c'est vraiment très conséquent. Hein, c'est important. Ouais. Elle a été relayée par d'autres Twitchers, etc. Donc, ça, c'est quand même l'exception d'arriver à ce stade-là. Et vous voyez que même l'exception, ça ne permet pas d'en vivre non plus. Mais on va dire que c'est un complément de revenu intéressant.
Alors vous dites les chiffres sont secrets, Amazon les garde secrètement. On profite d'avoir Jean Massier avec nous. Jean Massier, quel est votre statut sur Twitch ? Vous êtes affilié, vous êtes partenaire. Comment vous gagnez de l'argent sur la plateforme ?
Je suis partenaire de la plateforme et je gagne de l'argent exactement comme l'a expliqué Benoît, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir sur mes 80 000 followers, j'en ai quelques centaines qui sont abonnés et ces quelques centaines donnent de l'argent à la différence de tous les autres. Vous savez, c'est un peu comme un artiste qui fait passer le chapeau après sa prestation, il y a quelques personnes seulement vont donner une pièce et tout le monde a conscience que c'est parce qu'il y a quelques personnes qui donnent une pièce que le spectacle est possible. Ben moi c'est pareil. Voilà, j'ai quelques centaines de personnes qui aiment suffisamment mon travail pour avoir envie de donner 5€ par mois et j'en touche effectivement la moitié.
Il y a certains responsables politiques. Ah non, juste une petite question. C'est pour barre virtuelle, vous en touchez vous aussi ce que racontait à l'instant Benoît Berthelot, est-ce que vous en touchez également des pourboires virtuels et qu'est-ce qu'on en fait ensuite ?
Oui, ça fait partie aussi du modèle économique. Moi, je vous avoue que j'en touche assez peu, puisque mes émissions sont assez peu tournées autour de la récolte d'argent. Mmh. Mais les internautes ont toujours la possibilité de faire un don en direct. C'est toujours possible de faire un don. Et ben, c'est de l'argent qui rentre dans la cagnotte globale de ce que je touche à la fin du mois.
J'ai très mal posé ma question. Si ce pourboire est virtuel, comment on fait ensuite pour l'utiliser ? Si c'est pas une monnaie de singe, c'est ça que je voulais dire. Qu'est-ce que vous allez faire de vos pourboires virtuels pour aller à la boulangerie ensuite ? Ah, c'est du vrai argent ! C'est du vrai argent.
C'est se convertir en euros, c'est après, il y a une équivalence.
D'accord, je pensais que c'était une sorte de virtualité à la manière du Bitcoin, une monnaie qui n'existait pas ou qui n'existait que dans un champ très circonscrit. Jean Massier, il y a certains responsables qui sont sur Twitch, Jean-Luc Mélenchon par exemple, le candidat France Insoumise à la prochaine présidentielle, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, y arrive ce soir. Est-ce qu'eux aussi sont rémunérés ?
Non, alors il se trouve qu'eux ont fait le choix de ne pas devenir partenaires de la plateforme. C'est un choix que l'on peut faire. Les streamers ont la possibilité, s'ils le souhaitent, d'activer la possibilité d'être rémunérés. Mais c'est un choix. Et certains streamers, pour des raisons éthiques, essentiellement, ne le font pas. Donc je ne pense pas que Gabriel Attal, donc à travers lui, le gouvernement et la République française vont gagner de l'argent en faisant des streams. Ils pourraient le faire, mais ils font le choix de ne pas le faire, à mon avis pour des questions d'éthique, par la volonté de rester très indépendant d'Amazon. Et puis voilà, non, on ne paye pas le porte-parole du gouvernement pour qu'il nous fasse un compte-rendu du Conseil des ministres. Non, quand
exactement.
Même pas.
Et je précise que Samuel Etienne, par avance, a déclaré qu'il ne toucherait pas d'argent sur Twitch et sur sa chaîne. Jean Massier, vous êtes fait connaître notamment en commentant les questions au gouvernement, à l'Assemblée, au Sénat. Je l'ai dit, ça a tellement bien marché pour vous qu'une chaîne de télévision est venue vous chercher, c'est Public Sénat. Aujourd'hui, le mouvement est inverse, plutôt. Les chaînes et leurs journalistes ou animateurs investissent Twitch. France Télévisions avec Samuel Etienne, on l'a dit, et bientôt TF1. Quel regard vous portez sur ces mouvements ?
C'est une mutation qui est logique, cohérente et qui entraîne avec elle, enfin qui traduit plutôt la mutation des médias. Les audimates, les audiences des chaînes de télévision sont vieillissantes. On le sait, plus de 60 ans en moyenne. On le sait. Comment est-ce qu'on fait pour s'adresser aux jeunes ? C'est pas en faisant des émissions de télévision meilleures que ce qu'elles étaient avant. C'est simplement en acceptant le fait que les jeunes ne regardent plus la télévision. On ne prend plus la télécommande sur la table basse pour appuyer sur pour allumer la télé quand on rentre à la maison. Les jeunes, ils sont sur leur téléphone portable, ils sont sur leurs ordinateurs portable, ils sont sur les réseaux sociaux. Twitch en est un, et donc la télévision a bien compris que c'est là qu'il allait falloir aller si on veut réussir à toucher un public jeune. Donc on voit les chaînes qui commencent à vouloir adresser, mais c'est très intéressant ce mouvement puisque ça interroge beaucoup les chaînes dans leur relation à leur public. Ce sont d'autres codes, ouais. Ce sont d'autres manières de faire, et on a un public, le public de Twitch, qui est très exigeant et qui voit. Pour une partie d'entre eux, le public de Twitch voit d'un assez mauvais œil les vieux médias, les grandes maisons débarquer sur la plateforme. Il y en a certains qui sont assez réticents à l'idée de voir les trucs de vieux, la TF1, France 2 venir sur Twitch. Il y en a plusieurs qui grincent des dents parce qu'ils ont peur que la plateforme perde de sa sincérité.
C'était un peu le sens de la question. Et non seulement Twitch ringardise la télévision, vous l'avez dit, mais pour certains, ils ringardisent également YouTube. Benoît Berthelot, je me tourne vers vous. Notre mode d'emploi de Twitch ne serait pas complet si l'on ne parlait pas du propriétaire de la plateforme Amazon. Un soutien de poids, et notamment, et c'est très important la technique, grâce à ces puissants serveurs informatiques.
Oui, on le sait assez peu, mais Amazon, en fait, avant d'être un e-commerçant, c'est une entreprise du cloud qui a des serveurs informatiques qui sont loués à toutes les entreprises qui veulent les utiliser. Quand on regarde Netflix, c'est Amazon derrière, etc. Et y compris pour Twitch, évidemment, qui est sa propre plateforme. Ça coûte énormément de bandes passantes de diffuser en direct un flux qui part des États-Unis et qui est vu quasiment en direct en Thaïlande ou partout dans le monde sans déperdition d'image, etc. Et ils s'appuient sur ça sur leur propre serveur d'Amazon Web Services. Et ensuite, il y a une intégration complètement publicitaire. Bien sûr, la régie pub d'Amazon s'occupe aussi des pubs qui sont diffusées sur Twitch. Donc, c'est une petite filiale d'Amazon, toute petite, mais très rentable, a priori. Et pour le coup, elle est intégrée fiscalement de la même manière qu'Amazon Web Services, c'est-à-dire par un siège au Luxembourg. Donc, on peut parler d'évitement fiscal total pour Twitch en France ou en Europe.
Ça, pardon de sourire, je ne devrais pas. Mais enfin, on reconnaît bien là les caractéristiques des GAFA.
Voilà.
Qui mérite ce qu'on dit parfois sur elle. Merci beaucoup à tous les deux. Benoît Berthelot, je rappelle que vous êtes journaliste tech, mais pas seulement, au journal Capital et aussi sur capital.fr. Et puis Jean Massier, streamer politique gamer sur Twitch. On peut vous voir également sur Public Sénat. Merci d'avoir été avec nous pour ces éclairages en direct. Dans un instant, nous serons avec les animateurs de La Quotidienne sur France 5, Maya Loquet et Thomas Hill. Ils consacrent une semaine spéciale à l'agriculture française. Le salon de l'agriculture a été annulé, c'est pas grave, ils vont le faire la semaine prochaine sur leur plateau et ils seront dans ce studio dans quelques instants, mais sans les animaux. A tout de suite.
L'émission référence sur les médias, c'est Europe 1 Culture Média. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Thomas Hill.
Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Maya Loquet.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Maya, vous êtes journaliste, on vous avait vu notamment sur iTélé. Depuis 8 saisons, vous co-présentez l'émission La Quotidienne. C'est sur France 5 du lundi au vendredi à 11h45 avec Thomas Hill, c'est bien ça ?
C'est ça.
C'est exactement ça.
Votre actualité à tous les deux, c'est la semaine prochaine à partir de lundi. L'émission va prendre les couleurs du Salon de l'Agriculture, ce sera du 1er au 5 mars. Avant de détailler le programme, tout d'abord la présentation de l'émission pour qui ne la connaîtrait pas. Comment vous la définiriez ? À la base, Thomas, c'est une émission consommation. Mais pas seulement.
Oui, c'est ça. On a beaucoup élargi au fur et à mesure du temps. Ça s'appelle La Quotidienne parce qu'en fait, on va traiter de tout le quotidien des Français, de tout ce qui nous intéresse au quotidien, que ce soit les voyages, les animaux, le jardinage. Et puis, la consommation, c'est vraiment le cœur de notre émission parce qu'on essaie de montrer qu'on peut consommer autrement, différemment. et que ça peut même changer le monde.
Et vous dites que ça part dans tous les sens et c'est pas moi qui vais vous démentir, il y a une séquence totémique dans l'émission, ce sont les cas pratiques. Ce sont des questions posées par vos téléspectateurs auxquelles répondent vos chroniqueurs, c'est le principe. Par exemple, dans l'émission d'hier, une fois encore, ça partait dans tous les sens.
Des amis fans de randonnée m'ont parlé d'une balade intitulée « Sur le chemin de Stevenson » en Auvergne. De quoi s'agit-il exactement et que peut-on voir le long de cet itinéraire ? En 97, j'ai reçu en donation de mes parents un terrain estimé à l'époque 210 000 francs, soit 32 000 euros. Mes parents, qui en ont gardé l'usufruit, y ont développé un camping et l'ont fait prospérer. Aujourd'hui, ce terrain est estimé à 250 000 euros.
Oui.
En cas de vente, est-ce que l'administration fiscale se base sur la valeur à la donation ou la valeur actuelle ?
Avec quel produit naturel puis-je entretenir et nettoyer l'intérieur cuir de ma voiture ? Volant et siège compris.
Quelles sont les plus belles sections de la piste cyclable le vélo maritime en Bretagne ?
Non mais Maya, il y a vraiment des gens qui veulent la liste des plus beaux spots quand on fait du vélo en Bretagne, parce que je suis allé regarder la piste vélo maritime, elle fait 1500 km de long. Donc, alors je me dis, comment votre journaliste peut connaître les bons spots ? Ou alors, il les a trouvés sur Internet, mais dans ce cas-là, la personne qui pose la question peut aller voir elle-même sur Internet. Vous voulez susciter les questions ?
C'est pas... Ah non, non, pas du tout. Non, non, on reçoit des vraies questions et puis on a des vrais spécialistes pour y répondre. Dans ceux qui s'occupent de la partie touristique, alors je ne sais pas si la personne a vraiment fait ce parcours-là, mais en tout cas, ce sont des journalistes, des baroudeurs, donc c'est pour ça qu'ils sont vraiment à même d'y répondre. Et on reçoit de vraies questions, évidemment, Philippe.
Et alors les réponses, on va les trouver. Hein. Quel produit utiliser pour nettoyer le cuir de ma voiture ? La réponse, ne surtout pas utiliser les produits de commerce, il y a trop de produits chimiques.
Bah oui.
Il faut ressortir ces vieilles crèmes antirides au cas où on en est, ou des crèmes... voilà. Oui, parce que le cuir, c'est de la peau.
Ah, vous avez hyper bien écouté, Philippe, je suis très impressionné.
Bah, c'est le principe d'une émission,
non ?
Bravo. On travaille avant, et on regarde soi-même l'émission avant. l'actualité, la semaine prochaine, c'est une spéciale agriculture française, ça sera du lundi au vendredi. Pour cause de Covid, le salon d'agriculture est annulé, mais vous, votre émission va prendre ses couleurs, c'est-à-dire il y aura des vaches et des poules sur le plateau ou alors vous allez vous délocaliser dans une ferme. Comment ça va se passer ?
Non, le salon de l'agriculture va venir à nous, en fait. On a décidé de construire des stands. Alors, on supprime une partie du décor et on remplace ça par des stands régionaux. Donc, chaque région
Attendez,
de France...
juste une question. Il y a des gens qui pensent que vous tournez à France Télévisions. Il n'y a pas des vaches qui vont arriver dans le siège de France Télé. Vous tournez où ?
On aurait aimé, Philippe.
Ouais.
Mais ça va être compliqué.
On tourne vraiment à France Télévisions.
Ouais.
Et non, il n'y a pas de vaches qui vont venir parce qu'effectivement, c'est un peu compliqué. Et puis, honnêtement, on s'est dit que ce n'est pas vraiment la place des animaux d'être sur un studio de télé. En revanche, il y a des vrais producteurs, des vrais éleveurs qui vont venir d'un peu partout en France, y compris des territoires d'outre-mer, et qui vont être représentés sur notre plateau et qui vont venir défendre les produits de leur région. Voilà.
Chaque jour, des thèmes différents. Vous les avez en tête, vous avez la liste. Maya, par exemple, est-ce que vous avez la liste ?
Oui.
Alors, allez-y, je vous écoute.
On va parler lundi de tous les produits laitiers, de la conversion au bio. Vous savez que le bio, ça va bientôt représenter à peu près 10% des surfaces cultivées en France. Il y a une grosse demande des consommateurs, mais c'est pas simple pour des agriculteurs de se convertir. C'est coûteux, ça prend du temps, donc on va voir de quelle manière on va les suivre un peu. On va parler de la pêche, on va parler du bien-être animal, qui est une question qui est importante dans la société et dont s'emparent les agriculteurs, les fruits et légumes, comment revenir aux fruits et légumes de saison. Et puis on va parler des vins aussi, puisque le monde viticole, lui aussi, vit une révolution avec une demande des consommateurs qui évolue, puis les changements climatiques qui font que ce métier-là évolue aussi en profondeur.
Je vois que Thomas Hill a l'œil qui frise à l'évocation des vins. Est-ce que vous allez avoir des bouteilles sur le plateau, en plus des viticulteurs ?
Il va même y avoir de la dégustation. Hein. On va être un peu les Jacques Chirac des temps modernes.
Ouais.
On va passer de stand en stand et on va déguster.
L'époque a changé. Comment vous allez faire avec le CSA qui veille à ce qu'on ne fasse pas l'apologie de l'alcoolisme ? Il a raison.
Il a raison et on fait très attention à ça. Il y a une règle déjà, c'est qu'on ne peut pas s'exprimer sur le goût du vin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire si un vin, on le trouve bon ou pas. On ne peut pas avoir ce genre de qualificatif. Donc, on a le droit de le goûter. Mais on fait très attention à ce qu'on raconte derrière.
Voilà. Alors, il y a de la pomme.
Voilà, c'est ça. Mais on ne peut pas dire je le trouve très bon. Et puis au-delà de ça, on goûte avec évidemment parcimonie, très doucement. Et puis en rappelant tout le temps qu'il faut consommer avec modération du vin.
Vous aurez mardi un invité de marque, Julien de Normandie, ministre de la Culture et de l'Alimentation. Vous savez déjà sur quel... l'agriculture, j'ai prononcé vite. Vous savez déjà sur quel thème vous allez l'interroger ?
En fait, il va venir en début d'émission. On va pouvoir lui poser quelques questions justement sur le monde agricole. Et puis, il va venir avec nous visiter deux stands, trois stands même, Occitanie, Pays de la Loire et les Antilles. Et donc, il va passer comme ça de stand en stand avec nous et puis découvrir les produits de ces régions.
Et est-ce que vous allez l'interroger, au sujet de la polémique sur la suppression de la viande dans les cantines de la ville de Lyon. J'entends Maya Loquet que ça vous fait sourire.
Oui, bon, écoutez, pourquoi pas des sujets d'actualité. Après, on peut être amené à évoquer évidemment les sujets d'actualité lorsqu'ils sont dans notre registre et dans les sujets qu'on aborde au quotidien. Pourquoi pas?
J'ai mal posé la question. Est-ce que ça peut être une émission polémique parfois, La Quotidienne?
Oui, bien sûr. Si, encore une fois, ce sont des sujets qui nous touchent, qui sont les sujets dont on s'empare au quotidien, si les questions d'alimentation et d'agriculture, pourquoi pas? Oui, il peut y avoir un peu de polémique, même si on essaye surtout de faire de la pédagogie.
C'est une émission feel good quand on la regarde, mais il peut y avoir de la
polémique.
Oui, bien
sûr, mais on sort des postures, mais s'il y a un sujet qui peut prêter à discussion, voilà, on ne va pas exciter la polémique, mais on va laisser la discussion se dérouler, évidemment.
Thomas Hill.
On n'est pas une émission de clash. C'est pas du tout le.
Je sais, d'où ma question.
Et c'est même pas l'objet de l'antenne de France 5. Vous aurez remarqué que dans toutes les émissions de France 5, on essaye plutôt d'être posé et de réfléchir aux choses et d'approfondir les choses sans forcément chercher justement la polémique, le clash, le débat à tout prix. En revanche, ça ne nous empêche pas du tout de dire ce qu'on pense. Ça ne nous empêche pas du tout de poser les questions importantes, mais sans chercher forcément à faire du bruit pour du bruit.
Il y a une cantine à La Quotidienne?
Oui, il y a une cantine, ouais, à France Télévisions.
Il y a de la viande à la cantine?
Il y a de la viande à la cantine, bien sûr.
Ouais, on parle de l'émission La Quotidienne avec Thomas Hill et Maya Loquet. Culture Média continue, à tout de suite.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Thomas Hill et Maya Loquet, ils co-présentent La Quotidienne. C'est donc tous les jours, comme son nom l'indique, sur France 5. C'est à 11h45 jusqu'à...
Jusqu'à 13h, voilà. Je sais que vous regardez que jusqu'à midi, vous venez de me
non,
dire.
Non, midi, midi et demi, ça dépend. Je regarde aussi le 12-13, je regarde toutes les infos, toute la tranche d'infos.
Ouais, c'est
je regarde.
C'est
vous voulez savoir ce que je regarde à midi? Je regarde vous, ensuite je regarde la 3. Ouais. Ensuite, il y a le journal d'M6 qui démarre. Ah, ensuite, je regarde les titres de la 1 et de la 2. Ils démarrent pas en même temps. Et ensuite, je fais mon choix comme ça.
Ah ouais.
Et après, je termine avec les chaînes d'infos.
En zapping permanent.
Exactement, pour voir comment les sujets sont traités par les uns et par les autres.
Bravo.
L'émission à La Quotidienne avait été interrompue pendant 10 jours en septembre parce qu'un de vos invités avait été testé positif au Covid.
Ah ouais, quelle galère ça.
Vous avez pris des précautions désormais encore plus drastiques. Comment ça se passe pour vous?
Oui, alors là, la dernière précaution, c'est qu'on a rajouté, comme chez vous, là, des plexiglas entre nous.
Ouais.
Je ne sais pas si c'est très utile, mais voilà, il faut le faire. Ça ajoute un peu.
Ne le dites
plus.
Pas, sinon on va nous rajouter encore des plexiglas.
Et voilà, exactement.
Et si j'ai bien compris, c'est mon point mobilier. Maya Loquet, il y a un canapé plus grand maintenant.
Oui, alors non, on a des fauteuils maintenant. On a plus de canapé. On a espacé davantage. Voilà, on vérifie notre température le matin au studio. Et puis,
je vous en prie,
et puis oui, on fait très attention. Évidemment, on a des distributeurs de gel hydroalcoolique partout. Enfin voilà, comme tout le monde,
on
prend les mêmes précautions que tout le monde.
L'équipe va bien. Comment vont les audiences?
Très bien.
Très bien.
Ça, c'est chouette parce que c'est formidable de voir qu'au bout de 8 saisons, on continue à petit à petit grappiller des gens.
Ouais.
Et ça fait plaisir parce que ça veut dire que le bouche à oreille est bon. Et en fait, c'est une émission qui a commencé petitement et qui n'a cessé de grandir.
Combien de téléspectateurs désormais?
Là, on est autour de 400 000 par jour en moyenne.
400 000 par jour?
Oui.
D'accord. Dans l'émission,
avec des pointes à 700, hein, mais voilà.
Comment? Avec des pointes à 700, sur quel moment les pointes à 700? Vous les avez identifiées?
Sur ce dont vous parlez tout à l'heure, les cas pratiques, qui est la séquence qui plaît le plus dans l'émission. Et toutes ces réponses concrètes aux gens, avec ce côté un peu zapping, justement, où on passe d'un sujet à un autre très vite, et bah, ça plaît énormément.
Et puis l'autre raison qui fait que ça marche mieux, c'est que c'est la fin de l'émission et c'est le moment où les gens arrivent du travail et vont vous regarder.
Ouais,
il y a aussi de la mécanique en télévision. Il y a aussi des débats dans l'émission avec la participation de votre public. C'est pourquoi vous annoncez le thème dès le début de l'émission. Exemple, j'ai regardé avant-hier lundi, voici comment démarrer l'émission.
Notre d'accord, pas d'accord, selon vous, est-ce qu'il faudrait prolonger le confinement jusqu'à Noël? On vous a posé la question sur la plateforme de La Quotidienne et vous allez voir que les avis sont très partagés.
Oui.
Non, ça vous fait rigoler, vous voulez déconfiner jusqu'en décembre
non,
pendant 10 mois
ça.
Encore.
C'est que vous avez regardé une rediff.
Pas du tout, c'était le replay de lundi.
Oui, mais c'est une rediffusion.
C'était une rediffusion.
Alors cette semaine, nous sommes en rediffusion,
voilà.
Pour cause de vacances.
Ouais.
Voilà. Mais on reprend la semaine prochaine. Et donc c'était une émission, malheureusement, alors c'est le problème des rediffusions et qui ne sont pas montées, c'est que ça rediffuse des choses qui ont été, donc ça a dû passer vers novembre, là, par exemple.
Exactement.
Et on parlait de Noël.
Mais pourquoi ne pas avoir indiqué ceci est une rediffusion? Parce que je suis allé voir sur d'autres sites et tout le monde passe ce truc-là. Enfin, c'est diffusé comme tel.
Oui, alors je crois que c'est écrit 5 secondes au début de l'émission, mais voilà, c'est tout. Après, ça, c'est à la chaîne d'en décider.
Voilà, alors vous n'avez peut-être pas le budget pour avoir un opérateur de synthé. c'est quoi le budget d'une émission comme la vôtre ?
Ah, j'en ai aucune idée, j'aimerais bien savoir ça.
Ouais. Parce que ça Maya, vous le savez ou pas ?
Négocier.
Alors, absolument pas, mais j'aimerais également le savoir.
Vous ne connaissez pas le budget alors que vous en êtes le producteur, l'instigateur de cette émission. C'est votre projet, pour reprendre le président de la République.
J'en suis que le producteur artistique, et au-dessus de moi, il y a un producteur tout court qui s'occupe des cordons de la bourse. Voilà.
Mais c'est vous qui l'avez écrit, je ne me trompe pas.
On l'a écrit ensemble avec Christophe Kozarek, le producteur. Ouais. Ouais, on a écrit ça à quatre mains.
Jara Prod, il y a aussi des dossiers, comment vous les choisissez ? Par exemple, la semaine dernière, j'ai regardé comment bien choisir son oreiller. Et alors Maya Loquet, comment on peut tenir, vous qui venez de l'info continue d'e-télé, comment on peut tenir 22 minutes sur un sujet pareil ? Comment bien choisir son oreiller ?
Mais justement, il y a plein de choses à dire, vraiment. Et on découvre à chaque fois des nouvelles choses, des innovations. Et puis on va faire intervenir des kinés, des ostéos qui vont nous parler de la posture. Donc non, il y a évidemment toujours beaucoup de choses à dire. Après, c'est vrai que là, c'est des sujets qui peuvent paraître, un peu plus, gadget. Mais c'est faux, parce que le sommeil est quand même extrêmement important et va conditionner nos journées derrière.
Et puis ce qu'il y a dans votre oreiller aussi. Hein.
Ouais.
Vous savez ce qu'il y a dans
Exactement.
Non, mais j'ai vu tout ça parce que j'ai regardé entièrement les 22 minutes.
Ah ouais, mais par exemple, si vous avez des plumes d'oie, c'est pas la même chose que le synthétique.
Et attention,
et ça a des conséquences sur l'environnement, sur le bien-être animal.
Ça.
Donc derrière, on en tire des choses. Quoi.
Et j'ai bien retenu la leçon attention aux plumeties. Thomas Hill, vous avez un long passé au sein de la télévision. Vous avez d'abord travaillé dans les jeux télé. Vous faisiez quoi ?
En fait, j'étais développeur d'émissions. J'ai commencé comme ça d'abord dans une boîte qui s'appelle Fremantle, qui fait notamment Question pour un champion ou L'amour est dans le pré. Et puis là-bas, j'ai créé une émission qui s'est vendue dans une vingtaine de pays qui s'appelle Take Me Out, qui est une émission, un jeu de dating, ce qui fait que Nagui m'a repéré et m'a fait venir chez lui. Et donc j'ai dirigé le développement là-bas et j'ai produit ensuite des émissions pour lui.
La légende raconte qu'auprès de Nagui, c'est vous qui lui avez conseillé d'acheter les droits d'un jeu qui cartonne depuis 2007. N'oubliez pas les... C'est vrai que c'est vous qui l'avez repéré, ce jeu ?
Ouais, en fait, c'est la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé chez lui à Air Production. Je lui ai dit, il y a un jeu formidable à l'étranger qui allie tes deux casquettes, la musique et le jeu. Donc, c'est vraiment pour toi. Et il a adoré tout de suite. Et on s'est battu ensuite au MIP qui est arrivé en septembre contre TF1, qui le voulait aussi, et présenté par Benjamin Castaldi.
Ouais.
Et puis c'est Nagui qui a réussi à le décrocher parce que France 2 a tout de suite dit oui, ça on le mettra à l'antenne.
Voilà. Et vous touchez toujours des droits là-dessus ou pas du tout ?
Moi je ne touche absolument rien.
Ah dis donc, vous n'êtes pas doué pour ça. Maya Loquet, vous vouliez faire quoi quand vous étiez petite ? Vous vouliez être journaliste ou vous vouliez être danseuse ?
Je voulais être danseuse. Danseuse d'abord et journaliste après. Voilà, j'avais tracé ça dans ma tête.
Et je pose la question à dessein parce que je connais cette histoire. Thomas Hill, quand vous avez changé la moquette de votre chambre d'enfant, vous avez découvert un petit papier sur lequel il était écrit
« Bonjour, je m'appelle Thomas de Chavannes. J'ai 11 ans. » Et, ouais, et j'ai retrouvé ça il y a quelques années. Ça m'a beaucoup ému de retrouver ça planqué dans ma moquette. Et c'est vrai que je regardais à l'époque Coucou c'est nous et j'admirais Christophe de Chavannes et je me suis dit c'est ça que je veux faire.
Merci beaucoup Thomas Hill, merci beaucoup Maya Loquet. Je rappelle la quotidienne sur France 1, France 5, c'est du lundi au vendredi à 11h45. Aux couleurs du Salon de l'agriculture la semaine prochaine du 1er au 5 mars. Comme Europe 1, je le signale, dans le Salon des agriculteurs, ce sera une opération spéciale la semaine prochaine. Début lundi avec le 5-7 de Sébastien Krebs, délocalisé en direct d'une ferme du Calvados. Et il y aura aussi l'émission évidemment d'Elisabeth Assayag. Merci d'avoir été avec nous.
Merci Philippe.
Culture Média qui
Merci
continue.
Beaucoup.
Après le rappel des titres de 10h, on va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un focus sur la carrière exceptionnelle d'un roi du foot. Bertrand Chameroy pour son écran de veille consacré à Pékin Express. J'attends que ça. Et puis notre invité, la diva du jazz et sa voix de velours, Mélodie Gardot. Dans nos indispensables, un manga et puis ensuite de la science-fiction et une web-série autour de l'art. Rien que ça, quel programme, c'est Culture Média.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor. Vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.